Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, vous avez été exemplaire sous le regard du monde entier. Les mots d'Emmanuel Macron aux pompiers qui étaient à Notre-Dame et reçus à l'Élysée aujourd'hui. Dans un instant, portrait d'un de ses héros. Il a connu l'Afghanistan, Charlie Hebdo, le Bataclan et l'incendie de la cathédrale. Cet incendie a au moins une conséquence heureuse, le roman de Victor Hugo et plus généralement les livres sur Notre-Dame s'arrachent en librairie. Reconstruire en 5 ans, dit le président, qui a trouvé là son grand chantier culturel. A-t-on les bras pour le faire? Les bras et les spécialistes et les artistes. Plus d'informations sur le sujet depuis ce matin. Est-ce qu'après l'incendie de Notre-Dame, le pape viendra en France? Il viendra en temps voulu, répond à l'instant Emmanuel Macron. Le programme du Festival de Cannes, dans moins d'un mois, du grand classique, Almodovar, Desplechin, Ken Loach, les frères Dardenne, Terrence Malick et Claude Lelouch qui présentera la suite d'un homme et une femme. France Inter, première radio de France, pour la première fois, le service public en grande forme, Europe 1 qui poursuit sa chute. Les dernières audiences radio sont riches d'enseignements sur un paysage médiatique qui évolue. Invité de ce journal pour en parler, le spécialiste des médias, Emmanuel Torregano. Dans cette édition encore, comment réformer les retraites? Le débat se tend, FO claque la porte des négociations, le MEDEF plaide pour une retraite à 64 ans. Et si l'économie française était plus dynamique que l'allemande? Chronique Europe de Delphine Simon. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Douceur voire chaleur?
Ah oui, une grande douceur cet après-midi. On aura par endroits des températures au-dessus des normales de fin juillet ou début août. On a déjà plus de 20 degrés sur de nombreuses régions. On ira jusqu'à 26 degrés en Auvergne et sur le Limousin. Le soleil sera radieux sur l'est, mais de plus en plus voilé en allant vers l'ouest, avec même un ciel laiteux entre les Pyrénées et la Bretagne. Et puis à noter du vent aussi sur le sud du pays, notamment le vent d'Otan qui dépassera localement les 100 km par heure.
Vous nous donnez d'autres détails, d'autres températures tout à l'heure, Sébastien Léas. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
C'est la toute petite conséquence positive de l'incendie de lundi. Notre-Dame de Paris, le roman de Victor Hugo, est en tête des ventes de livres sur Internet et dans beaucoup de librairies, ses ruptures de stock. Le site Livre Hebdo qui fait référence le constatait hier. Hugo, mais pas seulement, globalement, les livres sur Notre-Dame s'arrachent pour garder des images de la cathédrale avant. Illustration à Metz, Mélanie Juvet.
Au rayon littérature de la librairie Isler, Madeleine Renaud vérifie ses ventes.
Et en fait, j'ai plus de poche du tout, donc...
Tous les romans Notre-Dame de Paris sont partis, mais aussi les livres associés à la cathédrale, une dizaine d'ouvrages au total.
De la version jeunesse, de la version illustrée, des guides sur Paris où il y a des grosses parties, des livres pour les enfants sur Victor Hugo, sur la cathédrale. J'ai une cliente ce matin, par exemple, qui me disait qu'elle voulait pouvoir montrer à ses enfants à quoi ressemblait Notre-Dame avant l'incendie.
Quant à reverser les marges des ventes du roman, la direction est réfléchie. C'est plus difficile pour la petite librairie en face, Jean-Philippe Ruggiero, gérant de la bouquinerie.
Si les libraires ont de l'argent à donner, tant mieux pour eux. Mais moi, je connais la situation des libraires du coin. Personne ne va donner quelques pourcents de marge pour restaurer Notre-Dame. Je pense que c'est plutôt du don privé, du mécénat, des choses comme ça. Les libraires sont déjà en difficulté, on est déjà compressé par un tas de facteurs qui nous empêchent de faire beaucoup de bénéfices. Donc du coup, ça me paraît compliqué. Ouais.
Malgré tout, le professionnel a vu les lecteurs se presser ces derniers jours.
On a vendu tout de suite les quelques livres d'art qui nous restaient sur la cathédrale Notre-Dame. Les 3-4 que j'avais en rayon, c'est tout. Moi, ça m'étonne pas tant que ça. Dès qu'il y a un drame, dès qu'il y a quelque chose, tout le monde cherche à savoir, à se documenter. C'est pareil pour les affaires judiciaires, ça a toujours de l'impact sur les gens.
Et ce n'est pas le premier phénomène de ce genre. En 2015, après les attentats dans la capitale, le livre « Paris est une fête » d'Hemingway avait vu ses ventes s'envoler.
Autre héros du moment, quelques 200 ans après la publication du roman de Victor Hugo, ce sont les pompiers. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Hommage rendu aux pompiers ce matin à l'Élysée. On en parle dans un instant avec vous. D'abord, bonjour Mathieu Mondoloni.
Bonjour Bruno.
Portrait d'un de ces héros qui est l'aumônier des pompiers. Il a connu quasiment tous les malheurs qu'ont traversé la France ces dernières années. Et il était lundi à la cathédrale Notre-Dame.
Exactement, il est environ 20h lundi soir. Notre-Dame est en feu, la flèche vient de s'effondrer. Et c'est à ce moment-là que l'abbé Jean-Marc Fournier décide avec une dizaine de pompiers de rentrer dans la cathédrale. Il les guide dans Notre-Dame et ils parviennent ainsi à sauver de nombreuses œuvres inestimables comme une Vierge à l'enfant, la tunique de Saint-Louis, mais surtout la Sainte Couronne du Christ, l'une des reliques les plus précieuses de la chrétienté.
Vous avez cette joie, qui est une joie réelle, d'avoir participé à préserver une part du patrimoine du peuple français. C'est ça qu'il faut voir. Et en même temps, des catholiques.
Un acte de bravoure que l'aumônier minimise. Il n'y a rien d'héroïque dans ce que nous avons fait, dit l'abbé Fournier.
Nous, c'est simplement l'exemplarité, à savoir tenter, puisque je suis d'abord prêtre avant d'être soldat dans le monde des sapeurs-pompiers de Paris, cette exemplarité, c'est de ressembler le plus au Christ. Or, le Christ nous dit la chose suivante, celui qui n'a pas encore donné sa vie, il n'a rien donné, ou plus exactement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime.
Et c'est cette foi qui le guide, ajoute-t-il, et qui l'a guidé lorsque, aumônier militaire, il tombe avec son unité dans une embuscade en Afghanistan en 2008. 10 soldats français trouvent la mort. 3 ans plus tard, il rejoint les pompiers de Paris et traverse à leur côté les drames les plus douloureux qu'ait connu la capitale.
J'ai eu ce triste privilège d'être présent tout à la fois pour Charlie Hebdo et d'avoir vu chacun des dessinateurs et des collaborateurs lâchement assassinés. J'ai eu ce triste privilège de participer à la libération de l'hypercachère et puis le Bataclan, où là, après avoir pendant de longs moments participé au sauvetage des victimes, et bien de constater l'horrible réalité qui était d'un peu plus de 130 morts, je crois, ou 136 morts.
Prêtre, soldat du feu et chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre, l'abbé Fournier appartient depuis 2015 à cet ordre, dont l'une des missions, Bruno, en France, est justement de veiller sur la Sainte Couronne de Notre-Dame de Paris.
Sacré personnage. Alors Cyril Graziani, comme promis avec vous, l'Élysée et cet hommage que le président, après le Premier ministre hier, vient de rendre aux pompiers.
Et ça vient de se terminer par une Marseillaise entonnée par tous les invités. Moment très intense, les 300 pompiers en chœur qui ont été à pied d'œuvre depuis lundi, les policiers qui ont permis de sauver les œuvres en les sortant de la cathédrale. Et devant eux, Emmanuel Macron a fait part de sa fierté. Il a remercié une nouvelle fois ce qu'il avait appelé les héros. Le président a d'abord eu un mot pour l'ensemble des catholiques. Il a raconté rapidement avoir eu le pape au téléphone. Il l'a invité à venir en France. Le pape lui a annoncé qu'il viendrait tant en voulu. Il est ensuite revenu sur ses premières minutes, lundi soir, qui ont permis d'éviter le pire grâce à votre réactivité, au bon choix, au bon geste. Ils recevront tous la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement. Emmanuel Macron a enfin cité Victor Hugo, évidemment. Les grands périls ont cela de beau qu'ils mettent en lumière la fraternité des inconnus.
À Cyril, un mot de politique. L'idée qui émerge, c'est qu'au fond, avec la reconstruction de la cathédrale, Emmanuel Macron a trouvé son grand chantier culturel à l'image de la pyramide du Louvre pour François Mitterrand.
Clairement, il s'investit dans la reconstruction. Ce sera son grand chantier patrimonial présidentiel, se réjouit un ministre, à une époque où il n'y en a plus vraiment, faute de budget. Depuis lundi, le président est en communion. De la communion des saints à la communion nationale, il n'y a qu'un pas, veut croire un de ses stratèges. Mais attention à ne pas trop en faire, prévient une de ses soutiens, notamment vis-à-vis des catholiques. Mais c'est vrai qu'à quelques semaines des européennes, le vote chrétien-démocrate pro-européen n'est jamais à négliger.
Merci Cyril Graziani, en direct de l'Élysée. Autre cérémonie d'hommage cet après-midi pour toutes celles et ceux qui ont contribué à sauver Notre-Dame. Ce sera donc cet après-midi sur le parvis de l'hôtel de ville, à quelques centaines de mètres de la cathédrale. Alors reconstruire en 5 ans, est-ce possible? A-t-on les hommes, les métiers? Faut-il développer de nouvelles formations? Question clé. Le gouvernement donnait plus de détails ce matin, Guillaume Gaven.
Mobilisation générale en faveur des métiers d'art parce que ce sont des métiers trop méconnus que l'on redécouvre aujourd'hui par la force des choses, des métiers qui recrutent, selon la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
On a l'excellence, on a le savoir-faire dans notre pays, il n'y a aucun doute, mais on manque déjà en France de couvreurs, de charpentiers pour l'ensemble des chantiers à mener. On a un pays très riche en patrimoine et pourtant on a du mal à tout rénover. Donc pour le chantier de la cathédrale de Paris et pour les autres chantiers, le fait de se mobiliser va permettre de changer d'échelle et surtout faire connaître ensemble tous ces métiers. Car je crois que pour beaucoup de jeunes, ils pensent que c'est des métiers d'hier. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, on sait bâtir une cathédrale en France et on peut en rénover, et on peut rénover le patrimoine.
Même constat du côté des compagnons du devoir qui participaient à la réunion. Un manque de main-d'œuvre flagrant, explique Jean-Claude Bélanger.
C'est pas un problème de compétences que l'on a en France. Et c'est vrai que la richesse de la France aujourd'hui, c'est d'avoir ces femmes et hommes de métier parfaitement compétents dans leur métier. Demain, ce qui va nous manquer, ce sont des jeunes. Nous, chez nous, on a évalué qu'il nous faudrait plus de 500 jeunes de plus pour qu'on puisse satisfaire la demande des entreprises. J'espère que cette construction va permettre de donner une autre image des métiers pour intéresser un plus grand nombre de jeunes dans ces métiers.
Il reste une question à laquelle personne n'a de réponse. Former un tailleur de pierre ou un charpentier, ça prend du temps. Et le temps, justement, est compté pour la reconstruction de Notre-Dame.
Alors, vous le savez, depuis hier, il y a cette controverse sur les centaines de millions déjà offerts par de simples particuliers, de très riches hommes d'affaires, des entreprises pour la reconstruction. Tant mieux, tant mieux. Mais certains ont le sentiment qu'on ouvre plus facilement le porte-monnaie pour les vieilles pierres que pour les pauvres gens. Il y en a d'autres qui regardent cette manne avec un mélange de gratitude, d'envie et d'humour. Ce sont ceux qui passent leur année à chercher 1000 euros par-ci par-là pour leur petit patrimoine local. Écoutez Alain Renaud, il préside l'association des Amis de la Chapelle Saint-Louis de Carteret dans le Cotentin. En 10 ans, l'association a réalisé 150 000 euros de travaux sur l'édifice qui est le plus ancien de Barneville-Carteret et compte continuer de se battre pour récolter des fonds.
Nous, on joue dans la cour des petits, il y a la cour des grands, et c'est très bien qu'il y ait j'ai entendu Arnaud, j'ai entendu d'autres qui donnent des sommes qui sont en proportion certainement de leurs revenus, mais en ce qui nous concerne, on n'est jaloux de rien, bien au contraire, ça fait partie de la soirée du patrimoine, et quelquefois, une personne qui nous donne sur le marché 5 ou 10 euros a peut-être autant de mérite. Il faut trouver sans cesse des sources de financement, et cas un cas, les gens nous amènent des idées. Je vais vous donner un exemple. On sort des bouteilles de champagne tous les ans avec un musée différent. Nous, on vend le champagne, on fait de la marge. D'autres ont eu l'idée d'écrire des bouquins. D'autres ont eu des idées. On sort une carte postale tous les ans, différente. Et voilà, quoi. Donc, l'addition de petites choses finissent par faire des choses qui font un peu de volume, alors qu'ils sont pas au volume de Notre-Dame, mais on n'a pas cette prétention-là, ni cette ambition-là. Faut pas oublier que la France est quand même le premier pays touristique du monde, et que toutes ces choses-là, du plus grand au plus petit, font la vie touristique du pays.
Et alors que l'incendie de la cathédrale Notre-Dame a été médiatisé dans le monde entier, cette arrestation il y a quelques heures, un homme arrêté après avoir pénétré dans la cathédrale Saint-Patrick de New York avec deux bidons d'essence et des briquets, réponse incohérente et évasive aux enquêteurs. Nous ne savons pas quel était son état d'esprit, quelle était sa motivation, dit le commissaire adjoint du département de police de New York.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
L'actualité du cinéma à présent, Festival de Cannes, demandez le programme. Il commence dans un peu moins d'un mois, ce festival, le 14 mai. Quel film en compétition, quelle star sur le tapis rouge. Alors, ce qu'on savait déjà, président du jury, le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu. Film d'ouverture, un Jim Jarmusch, The Dead Don't Die. Et après, bonjour Eva Bétan.
Bonjour. Et après déjà le film d'ouverture, vous allez pouvoir voir la cérémonie d'ouverture et le film d'ouverture en salle dans beaucoup de salles en France. Après donc 19 films en compétition, mais la sélection c'est un suspense, quoi. C'est-à-dire c'est toujours jamais terminé. Il y aura d'autres films qui s'ajouteront. Est-ce que Tarantino sera prêt? Tarantino, Brad Pitt et DiCaprio, c'est donc le grand suspense. Alors, c'est pas le lieu d'être chauvin Cannes, mais il y a quand même 4 films français en compétition, oui. En course pour la Palme d'Or sur les 19. Il y a un premier film de quelqu'un qui s'appelle Lajli. Ça s'appelle Les Misérables. Oui, Les Misérables, mais ça se passe à Montfermeil aujourd'hui en suivant une brigade de 3 policiers. Il y a 2 femmes cinéastes, 2 jeunes femmes, Céline Sciamma et Justine Trier, et il y a des Pléchins. Almodovar aura-t-il enfin la Palme d'Or qui ne cesse de lui échapper avec un beau film Douleur et Gloire sur la sorte de déprime d'un metteur en scène vieillissant? Il y aura Terrence Malick, les frères Dardenne encore, oui, mais il parle de la radicalisation d'un adolescent de 13 ans en Belgique. Il y aura le cinéaste palestinien Elia Souleymane, Xavier Dolan dans un film dans lequel cette fois-ci il joue. Je retiens aussi le Romain Cornelius Bourumbouillou. Donc si vous voulez, il faut pas voir que les grands noms, il faut regarder ailleurs. Il y aura Elton John qui viendra pour un biopic sur lui, il y aura Maradona pour un film sur lui, il y aura aussi un documentaire sur la Syrie. Si vous voulez, il y a de tout. Donc il faut voir, il faut être curieux de tout, et après on jugera.
On va voir.
Et on vous fera partager surtout.
Mais bien sûr, sur France Inter, avec vous Eva Bétan et avec Corinne Pellissier. Merci à Christophe Papon qui nous a permis de vous entendre distinctement. Allez, il y a des informations que l'on donne avec plus de plaisir que d'autres. Celle-ci nous fait très plaisir et nous avons envie de la partager avec vous et de vous en remercier. France Inter est la radio la plus écoutée de France. C'est la première fois depuis que Médiamétrie mesure l'audience radio au milieu des années 80. 6 350 000 auditeurs chaque jour. En tête, donc en tête à tous les grands carrefours de la journée, matin, midi et soir. Et pas seulement, nous en parlons en détail avec un spécialiste des médias. Dans un instant d'abord, parole à une auditrice. Elle s'appelle Sophie, elle a 47 ans, elle écoute France Inter depuis 30 ans.
Quand j'allume France Inter, je cherche du contenu. Aujourd'hui, on est sursollicité, l'information est partout. Et finalement, je crois que je cherche une qualité d'information. La matinale, bien sûr, Nicolas Demorand, Lia Salamé, et puis aujourd'hui Alexandra Ben Saïd, qui sont vraiment des journalistes qui ont une vraie maîtrise de leur sujet. On reste pas sur une approximation ou quelque chose d'un peu flou ou un jugement à l'emporte-pièce. Et la force de ce média, c'est vraiment d'être capable d'aborder tous les sujets Forêt sous tous les angles. Puis après, il y a les émissions mythiques. J'aime beaucoup la Marche de l'Histoire. C'est des longs trajets en voiture parce que voilà, on est embarqué dans une histoire et c'est assez magique en fait.
Est-ce que sur France Inter, il y a des choses que l'on pourrait améliorer à vos yeux ?
Il m'est arrivé d'entendre certaines interviews où je trouvais qu'on allait un peu loin dans la volonté justement de challenger le propos, d'apporter la contradiction pour la contradiction. Et ça m'agace un peu parce que ça confine un peu à la mauvaise foi pour moi.
Et oui, les auditeurs sont critiques et souvent très critiques et ils ont raison. France Inter et le service public France Culture en particulier gagnent des auditeurs alors que le média radio en général en perd, singulièrement les grandes radios privées. Europe 1 particulièrement et RTL qui est deuxième après avoir été le leader historique pendant des années. Alors, le service public en tête, ça n'est pas rien. Pour en parler, l'invité de ce journal est un des observateurs les mieux informés de la vie des médias. Bonjour Emmanuel Torregano.
Bonjour.
Rédacteur en chef du site Electron Libre, vous qui suivez ça à la fois de très près mais avec plus de recul que nous, comment analysez-vous les chiffres de France Inter ?
Alors d'abord, je les analyse dans un contexte qui n'est vraiment pas facile, puisque comme vous le savez, le média radio en général perd en fait des auditeurs régulièrement. Ça se fait depuis plusieurs vagues maintenant, à chaque fois que Médiamétrie les mesure. Et cette fois-ci, encore une fois, ça n'a pas raté, ça perd un peu moins d'un million d'auditeurs. Donc dans ce contexte qui n'est quand même vraiment pas très évident, qui est un contexte de concurrence globale entre tous les médias sur l'information, hein, il y a évidemment la télé, mais il y a aussi Internet, il y a les applications, toutes ces choses-là, eh bien finalement la performance de France Inter montre que pour ce média-là, pour cette radio, on a une véritable constance, on a une véritable fidélité des auditeurs qui, même dans un contexte difficile, va progresser, ce qui est tout à fait original, hein, ça je dois bien l'avouer. La plupart du temps, toutes les radios sont impactées de façon à peu près équivalente. Donc la question de savoir est pourquoi est-ce que France Inter, au-delà de la qualité de ses programmes, parce que il y a quand même pas eu de grands changements ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe chez France Inter qui soit vraiment si différent que ça des
autres votre
radios
réponse
pour qu'elles
se maintiennent ?
Ma réponse, hein, vous avez vu comment je fais jouer le suspense.
C'est ça, vous êtes très fort.
Ma réponse, certainement, c'est plusieurs choses. La première, c'est en effet la stabilité.
Oui.
C'est-à-dire que depuis que cette radio a été, on va dire, reformatée par Frédéric Schlesinger il y a déjà quelques années maintenant, et avec le travail de Laurence Bloch, on a vraiment quelque chose qui est dans une qui est la directrice de France Inter, on a véritablement une continuité entre la qualité de la matinale, qui est la première matinale de France, et de très loin, hein. Et puis derrière cela, il y a donc une sorte de continuité éditoriale qui fonctionne. Une continuité qui est véritablement ancrée dans le service public, très fortement ancré dans le service public, mais c'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est de l'information, c'est évidemment des connaissances, c'est évidemment du savoir, notamment dans l'après-midi, mais c'est aussi du divertissement et c'est une vraie tranche qui fonctionne évidemment très bien en deuxième partie de matinée, ça fonctionne aussi également très bien, et tout ça finalement, ça fait une radio qui fidélise mieux que les autres. Mais la deuxième raison pour laquelle elle fidélise mieux que les autres, et à mon avis c'est un phénomène qu'il faut aujourd'hui étudier, c'est l'absence ou la quasi-absence de publicité. Donc les gens qui écoutent France Inter, ils ne veulent pas de publicité, même s'il y en a un petit peu. Et donc, ils ne veulent surtout pas aller sur les autres radios où, là, par contre, il y a énormément de publicité. On le voit sur Europe 1. Le passage de Cohen à Europe 1, par exemple, c'est relativement mal passé parce qu'aucun auditeur n'allait aller sur Europe 1 pour supporter 12 minutes de publicité par heure. C'est, je pense, un phénomène qui est un phénomène global dans les médias qu'on voit aujourd'hui avec, par exemple, la montée des offres de streaming sur la musique, avec la montée de Netflix à plus de 5 millions d'abonnés en France. Et je pense qu'on voit exactement la même chose arriver sur la radio, et pour l'instant c'est le service public qui en bénéficie, mais demain ça sera le service public face à des offres qui justement seront des offres par abonnement, des offres dans lesquelles il n'y aura pas de publicité.
Alors ne parlons pas que de France Inter, je voudrais parler de deux autres radios. Service public à nouveau, France Culture qui atteint des scores très élevés également pour France Culture, 2.8.
Oui, c'est une forte progression. Là il y a plusieurs éléments à mon avis qui sont mis en place. Il y a certainement en effet une ouverture éditoriale dans l'antenne, c'est-à-dire que c'est quand même moins la radio des profs de fac. La deuxième chose qu'il ne faut surtout pas les minorer dans l'histoire France Culture, et c'est un point très important, c'est une radio qui a toujours extrêmement mal performé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
Oui.
En fait, France Culture est l'une des radios en France qui a la meilleure couverture d'émetteurs. Eh bien, elle capitalise sur la force et sur l'impact de son réseau de distribution, de diffusion, c'est-à-dire sur ses émetteurs. Et aujourd'hui, moi je vous dis clairement, je pense que 2.8 pour France Culture, ça ne peut être qu'un début. Vu la puissance de cette radio, et vu la qualité de son antenne, elle peut tout à fait monter au-dessus encore.
Le cas d'une dernière radio, Emmanuel Torregano, on s'en réjouit pas du tout. Europe 1 qui, Europe en 7 ans, perd 1 500 000 auditeurs. Et vraiment, on s'en réjouit pas parce que c'est une radio historique et importante. Là, c'est l'instabilité, au contraire, qui est sans doute derrière ces chiffres.
Alors là, c'est incroyable. En réalité, Europe 1, c'est une radio qui a connu un plus haut historique à l'arrivée d'Alexandre Bompard il y a déjà très longtemps, qui avait fait une grille qui est très très orientée sur les stars de la télé et ainsi de suite, qui a coûté très cher. Et depuis, elle s'effondre. Et aujourd'hui, en effet, elle passe très en dessous des 6 points. Une grande partie, d'ailleurs, de cet auditoire n'est pas retrouvée sur les autres antennes. Ça explique en partie aussi le début de crise du média radio en
général,
ce dont on parlait au début. Clairement, il y a des auditeurs qui quittent Europe 1 et qui ne vont nulle part ailleurs. Depuis 4-5 ans, cette radio, avec quelques paliers, a tendance à s'effondrer. Et aujourd'hui, alors là, c'est très simple, on le voit, malheureusement pour lui, mais par exemple, la matinale animée par Nikos ne prend pas. Ouais. Il fait 120 000 encore auditeurs de moins sur un an, ce qui est vraiment beaucoup, parce qu'on pensait clairement que cette matinale avait atteint son plus bas historique à cette époque-là. Et ben visiblement non, ils ont continué à creuser.
Et ils n'arrêtent pas de changer leur programme et l'encadrement au fil des années.
Et en effet, il y a une véritable instabilité sur cette radio, mais c'est même plus une instabilité. En fait, le vrai problème d'Europe 1, c'est qu'elle ne sait plus qui elle est.
Et à l'instant, une motion de défiance contre l'actionnaire Lagardère vient d'être approuvée à Europe 1. Emmanuel Torregano, entretien enregistré en milieu de matinée avec le spécialiste des médias. L'actualité internationale, une fois n'est pas coutume, nous emmène au Pérou quand un ancien président se suicide. Alan Garcia, qui a dirigé le pays 10 ans en tout, s'est tiré une balle dans la tête. La police venait d'entrer chez lui pour l'arrêter dans une affaire de corruption qui éclabousse une bonne partie de la classe politique d'Amérique du Sud. Ses partisans se sont réunis au siège de sa formation. Amanda Chaparro.
Hier soir à Cusco, au siège de l'APRA, le parti de l'ex-président Alan Garcia, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées pour pleurer le leader défunt. Sous son portrait géant, Rosa Amelia, militante de la première heure.
Nous sommes en train d'essayer d'assimiler ce qui paraît incroyable à tout le monde. On pleure son absence.
Le geste a surpris le pays tout entier. Pour les militants comme Luis Aguilar, secrétaire régional, Alan Garcia se sentait acculé par la justice.
Si notre président est parti en voyage vers les étoiles, c'est la conséquence d'une persécution politique et juridique qui a duré plus de 30 ans. Ce geste est important pour tout le parti, parce qu'il a refusé de se laisser humilier.
Un peu plus loin, sur la place d'armes de Cusco, d'autres commentent, encore incrédules, la nouvelle de son suicide.
Je suis consterné, ça nous affecte tous, qu'on soit sympathisant ou non. Personne n'attendait ce geste d'un leader comme lui.
Il a volé le pays tout entier, il était tellement compromis. Mais il a refusé d'affronter ça. Pour moi, c'est révoltant.
Alan Garcia, adulé autant que haï, était l'un des personnages les plus controversés de la politique péruvienne.
Voilà pour ce reportage au Pérou. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
La chronique Europe comme chaque jeudi dans ce journal de 13h. Et les chiffres de l'économie allemande qui viennent d'être donnés. Berlin n'attend plus qu'un demi-point de croissance cette année. En France, c'est 3 fois plus. Alors avec vous, on va refaire le match France-Allemagne en termes d'économie. D'habitude, c'est la France qui perd. Là, en ce moment, l'Allemagne a beaucoup plus de difficultés. Comment ça s'explique?
Trois raisons, Bruno. Tout d'abord, un coup de frein sérieux sur les exportations mondiale. Or, l'Allemagne, beaucoup plus que la France, est dépendante du commerce extérieur. Ses exportations pèsent, il est vrai, 45% de sa richesse, alors qu'en France, c'est à peine un tiers. Alors, quand la demande des marchés asiatiques ou américains ralentit fortement, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, les entreprises allemandes sont beaucoup plus fortement touchées que les nôtres. Un choc qui a été amplifié outre-Rhin par les nouvelles normes environnementales dans l'industrie automobile. Vous savez, c'est la suite du scandale des voitures diesel. Enfin, et c'est peut-être la principale raison selon certains experts, l'Allemagne est en fin de cycle économique. Elle a commencé très tôt, beaucoup plus tôt que nous, à rattraper la croissance perdue pendant la crise de 2008. L'effet rattrapage joue donc beaucoup moins aujourd'hui que dans l'Hexagone.
Y a-t-il un effet pouvoir d'achat?
Eh bien oui, et dans les deux pays d'ailleurs, car les gouvernements font de la relance, coup de pouce aux allocations familiales en Allemagne. En France, les experts de l'OFCE prédisent la plus forte hausse du pouvoir d'achat depuis 12 ans. 850 euros en moyenne en plus cette cette année pour les ménages. La moitié est due aux mesures prises en pleine crise des gilets jaunes, comme l'élargissement de la prime d'activité ou l'annulation de la hausse de CSG pour les retraités. L'autre moitié, elle s'explique par une forte hausse des salaires cette année, une inflation qui reste très faible et des taux d'intérêt toujours proches de zéro. Tout ça, ça dope le pouvoir d'achat des Français qui consomment et plus et qui relance donc l'économie.
Est-ce que ça va durer ?
Eh ben, il ne faut pas trop se réjouir car c'est momentané, disent les experts. Le ralentissement de l'économie mondiale, c'est plutôt un trou d'air selon eux. Du coup, les exportations mondiales vont repartir et l'Allemagne en profiter à nouveau à plein. Nos voisins ont fait de gros efforts d'économie. Leur dette publique ne dépasse pas 60%. Ils sont dans les clous européens. Du coup, ils ont des marges de manœuvre pour continuer, eux, les mesures de relance. Et ce sera beaucoup moins évident en France, vu notre dette publique proche de 100%. Bref, en 2020, les courbes allemandes et françaises pourraient se rejoindre et même se recroiser. Un scénario qu'on a déjà connu après l'an 2000.
L'économiste encore le débat sur la réforme des retraites qui se tend un peu plus alors que le gouvernement a multiplié les ballons d'essai ces dernières semaines pour tester l'idée d'un report de l'âge légal. Force ouvrière, le troisième syndicat français, claque la porte des négociations. Ce ne sont pas des négos, c'est un écran de fumée pour Philippe Pillet de FO.
Le contexte est devenu totalement malsain. La concertation, aujourd'hui en tous les cas, c'est flagrant, c'est devenu un paravent. Peut-être ce que le gouvernement voulait en faire dès le début, c'est-à-dire un écran de fumée. C'est pas chez le haut-commissaire que ça se discute. Si il est envisagé officiellement par le gouvernement une mesure d'âge, qu'elle soit sur la durée ou sur le report de l'âge légal, il est clair que pour nous, c'est un casus belli.
Et du côté du MEDEF, on enfonce le clou. Quelle que soit la solution choisie, il faudra travailler plus longtemps, il faudra de la clarté. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux.
Aujourd'hui, pour équilibrer le régime des retraites, il faut que le départ effectif, l'âge de liquidation de la retraite, en régime normal, soit de 64 ans. Alors évidemment, il y aura des exceptions, notamment les gens qui ont fait des carrières longues. Soit on change l'âge légal, qui est dire la vérité aux Français, soit on met une décote sur les points, ou la valeur du point. Mais là, c'est finalement faire travailler les Français plus longtemps sans leur dire. C'est pour ça que nous, on propose que ce soit l'âge légal et que les choses soient clarifiées. On est là pour dire la vérité aux Français.
Un propos recueilli par Laurent Kramer. Voilà, un rugissement pour accueillir Sophie Bécherel. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Parce que nous allons avec vous parler d'un lion alors qui risque pas de rugir. Hein. Il a quelques 20 millions d'années. Vous allez nous raconter, Sophie, l'histoire d'un paléontologue américain qui, à la pause déjeuner, décide d'aller jeter un œil au tiroir du Muséum National de Nairobi, Kenya, où sont rangés les fossiles et découvre une grosse bête.
Oui, cet accès de curiosité a conduit Matthew Borse vers un morceau de mâchoire énorme, des dents et d'autres fossiles qu'il a tout de suite attribué à un genre disparu, un mammifère carnivore du Miocène. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est que celui qui a découvert ces os est Martin Pickford, un chercheur du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris.
J'ai découvert le gisement dans les années 70, la fin des années 70. On a fouillé ensemble avec les collègues et c'est moi qui ai ramassé toute cette créodonte géante. Mais malheureusement, mon contrat n'était pas renouvelé en 84, donc j'ai pas pu avoir accès aux collections. Donc cette pièce, il traîne depuis presque 40 ans à peu près dans les tiroirs au Muséum du Kenya et enfin, il voit jour.
Avec ses os imposants, Matthew Borse et une collègue décrivent donc ce qu'ils pensent être une nouvelle espèce. Ils la baptisent Simba Kubwa, le grand lion en swahili, et la date à 23 millions d'années. Pas sûr, selon Martin Pickford et un autre chercheur du muséum, pour eux, il y a un petit peu exagération de la taille, puisqu'ils disent que ce lion est 7 fois supérieur à ceux qu'on trouve aujourd'hui. Ces créodontes, on en trouve aussi en Europe et en Libye.
C'est un animal avec une grosse tête et un corps relativement petit. C'est un groupe, un ordre de mammifères carnivores, ils mangeaient les chèvres plutôt. Mais c'est pas du tout un carnivore sensu stricto comme le lion, le léopard ou l'hyène par exemple. Et ils sont éteints autour des 8 millions d'années à peu près, quelque chose comme ça.
Pas de lien avec les carnivores d'aujourd'hui qui, eux, les auraient supplantés parce qu'ils étaient supérieurs.
Merci Sophie Bécherel.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Sébastien Léas.
Nouvelle hausse des températures cet après-midi, prenant même des saveurs estivales. La barre des 20 degrés est très souvent atteinte et dépassée. Le mercure grimpant même jusqu'à 26 degrés sur le centre du pays. Sur un large quart nord-est, les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, cette douceur est bien ensoleillée, même si des nuages se développent sur le relief. Sur le reste du pays, le soleil est bien voilé. Entre la Bretagne, la Normandie et Midi-Pyrénées, le ciel est même laiteux avec un voile très dense. L'après-midi est encore plus gris sur l'Aquitaine. Les nombreux nuages pourront laisser échapper quelques gouttes, mais ces ondées seront anecdotiques. Atlantique. Il y a aussi du vent cet après-midi entre la Corse et la Provence et sur le sud du Massif central. Et puis le vent d'Otan est localement violent, soufflant à plus de 100 km/h sur les hauteurs du Tarn.